le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone.
Agir local. Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission Grain de Sable. Nous ne sommes pas sur la plage, nous vous parlons de Lyon. Et ce soir, nous accueillons l'association Robin des Villes. Bon, bienvenue au Robin des Villes. Gilles, bonsoir.
Bonsoir.
Et Bertrand, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, bonsoir à vous deux. On va présenter votre association ce soir et puis les événements qui ont lieu autour de votre association. Moi, tout d'abord, j'avais envie de commencer par Robin des Villes, Robin des Champs, Robin des Bois, Robin des Villes, point d'interrogation.
Ouais. On nous l'a fait souvent, mais ouais, pourquoi pas. Nous, on... Robin des Villes, on existe depuis 97. C'est une association qui a été créée par des étudiants d'archi de Lyon, notamment. Et voilà, là, on est ravis que vous nous accueillez pour parler un petit peu de l'association et puis de l'actualité avec un événement qui a lieu à la fin du mois.
Ok. Et la question, donc, créée par des étudiants en archi, donc 97, c'est ça ? Et aujourd'hui, qui la compose ? C'est encore des archis ou alors ça tourne aussi dans d'autres domaines ?
Ça tourne un peu. En fait, ouais, il y a un petit peu toutes les disciplines. Il y a un petit peu une transversalité en fait et puis avec beaucoup de compétences différentes. C'est des étudiants d'archis qui ont voulu apporter une approche différente de la ville et de ce qu'il y a autour et de laisser la place aussi aux habitants. Donc c'est un petit peu le leitmotiv de l'association.
La ville et ce qu'il y a autour.
Oui, alors bon, l'association à l'origine, elle s'intéressait particulièrement à la ville. Hein. C'est pas pour rien qu'elle porte ce nom, tant pour Robin que pour ville. Et c'est vrai qu'à l'origine, l'association donc, qui est née des suites des premières rencontres du cadre de ville, qui ne s'appelait pas tout à fait comme ça au début, mais en tout cas, c'est les premières rencontres qui ont donné naissance à Robin des Villes. Donc c'est aussi un événement assez, on va dire, fort dans la vie de l'association. Et en fait, donc à l'origine, c'était des étudiants qui, effectivement, donc voilà, voulaient remettre un peu les habitants à leur place dans la ville, c'est-à-dire pouvoir donner leur avis, etc. Et ils sont partis du principe que c'était surtout au niveau des enfants qu'il y avait un travail à faire, parce que aussi, les enfants, c'est les futurs citoyens, et que du coup, en éduquant les enfants à la ville, à comment elle est construite, qui c'est qui l'a fait, c'est quoi un architecte, qui a le pouvoir de décider finalement comment on a fait la ville, eh ben, serait plus à même eux-mêmes derrière, plus tard, quand ils seraient grands, de prendre leur place dans cette ville et dans sa construction, et aussi, par ricochet, éduquer entre guillemets leurs parents, etc. Donc c'est vrai que c'était un petit peu le leitmotiv de départ. Sur les questions d'éducation des enfants à la ville. Et donc, assez très rapidement, c'est parti aussi sur l'éducation grand public. Donc, Robin des Villes s'est jamais spécialement revendiqué de ça, mais au final, on peut quand même la qualifier d'une association d'éducation populaire. En tout cas, elle se situe dans ces logiques-là. Et à réitérer ces rencontres qui sont des temps grand public, donc là, c'est la 5e édition, qui sont des temps grand public de rencontres et découvertes entre les professionnels de la ville, les architectes, les urbanistes, les paysagistes, ceux qui un petit peu la décident, donc les collectivités, les élus, les techniciens, etc., et ceux qui la vivent, les usagers, les habitants, etc. Et voilà, donc c'est comme ça que l'asso est né, et puis après, on a fait aussi d'autres choses dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure.
Mmh. Vaste programme ambitieux, objectif assez large, je trouve. Robin des Villes, Robin, moi je pense à Robin des Bois. Vous parlez au niveau de la genèse, d'une envie aussi d'aller vers l'enfant, d'aller vers celui qui prendra la suite. Mais Robin des Bois, il tire des flèches, non ?
Ah, c'est une très très bonne question, ouais. Alors sur Robin des Bois, l'allusion elle est claire, hein, c'était l'idée de rendre un petit peu la ville à ses habitants. Après, sur le fait qu'on tire des flèches ou pas, c'est vrai qu'il y a eu quelques projets où Robin des Villes s'est positionné très clairement en faveur de contre-projets ou en tout cas de remise en cause de certaines, de certains changements dans la ville, notamment à Lyon où l'association a été créée, enfin dans la région de Lyon, quoi, parce que c'était à Villeurbanne, puisque l'école d'archi de Lyon est à Villeurbanne. Et c'est vrai que c'est des actions qui ont été assez marquantes dans l'histoire de l'association. Mais bon, après voilà, aujourd'hui c'est une association qui compte une bonne dizaine de salariés. On est installé aussi dans d'autres villes, etc. C'est une association qui s'est peut-être un peu institutionnalisée, en tout cas qui voilà répond à aussi d'autres exigences en termes de capacité à vivre dans le temps, etc. Et donc voilà, on répond à aussi à une situation qui est très différente de au moment de sa création, mais en tout cas ça n'a jamais arrêté d'être une association qui donnait son avis quand c'était nécessaire.
Alors tu as parlé de contre-projet, moi je sais pas, ça fait écho en moi, je dis contre-pouvoir. Finalement l'asso elle est lyonnaise mais elle part de Villeurbanne et puis il y a un maillage national. Déjà est-ce que ça a été plus simple d'être à Villeurbanne pour s'étendre, je ne sais pas, par rapport à Lyon? Et ensuite bah, le maillage, quelles sont les villes concernées en France?
Alors l'asso elle a été créée à Villeurbanne officiellement au tout début, mais très vite elle a été installée à Lyon. Et on va dire que après Lyon avait un contexte, enfin a toujours d'ailleurs un contexte politique particulier sur ces questions-là, qui a amené pas mal de situations parfois un petit peu complexes. Notamment certains projets, oui, alors le contre-pouvoir, ben Robin Neville effectivement a comme ambition pas forcément de dans le principe d'être dans le contre-pouvoir, mais de se dire que les habitants doivent avoir leur place dans la fabrique de l'urbain. Et c'est vrai qu'à une certaine époque, et ben c'était avoir ce discours-là, tenir ce discours-là, c'était finalement revendiquer un contre-pouvoir, puisqu'à l'époque c'était personne n'en parlait. Enfin, la concertation, la participation, tous ces mots-là, même encore aujourd'hui, c'est pas forcément facile. Donc à l'époque, c'était ça n'existait pas vraiment, quoi. Il y a une quinzaine d'années, donc oui, Robin était de fait dans cette logique-là, sans forcément l'assumer ou en tout cas le revendiquer haut et fort, mais très clairement c'était l'ambition. De fait, aujourd'hui le contexte a largement évolué et c'est vrai qu'on peut plus être dans des logiques on va dire peut-être plus constructives avec les différents acteurs de la ville pour introduire la part des habitants dedans, là on va dire l'expertise d'usage comme on la revendique et comme beaucoup d'autres associations et structures nationalement la revendiquent, c'est-à-dire la reconnaissance de la connaissance qu'ont les habitants de leur espace de vie.
Et alors justement, je vais rebondir là-dessus. Gilles, en fait, je voulais revenir un petit peu sur la philosophie, la genèse de l'association, notre fameux Robin avec ses flèches sur son dos, rallie quelque part les habitants et se tourne vers les autres pour quelque part savoir ce qu'ils attendent de leur ville, entre guillemets, au niveau urbanistique, voilà, etc. Ouais. Je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui portait l'association, quel était vraiment le mot d'ordre, ouais, l'esprit.
Je voulais juste rebondir, Bertrand parlait d'institutionnaliser. En fait, c'est plus une logique de partenariat, en fait, surtout sur les activités éducatives de l'association, avec c'est une thématique peut-être que Robin et peu d'associations en fait ont fait émerger et sur lesquelles les institutions en fait ou les partenaires publics ont pu nous aider, quoi, à mettre en place des actions. Et sur le ce qui motive l'association, ensuite on a un petit peu structuré sur trois types d'actions, que ce soit sur les actions éducatives. Donc ça va être intervenir dans les écoles, mais aussi auprès des adultes, avec des ça va être aussi des actions plus événementielles, des actions de sensibilisation avec des voilà sous forme de que ce soit de conférences, de balades un petit peu urbaines décalées, et des interventions sur les projets de rénovation, de réaménagement en tant qu'association en fait. Avec une approche particulière, quoi.
Mmh. Et lorsque vous allez dans les écoles ou que vous faites des actions événementielles, est-ce que vous êtes accueilli à bras ouverts? Comment ça se passe?
Oui, généralement. Après, il y a peu de soucis. Oui, de manière générale.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, juste pour revenir, c'est vrai que c'est une petite parenthèse que je joue, mais c'est un débat qui est en cours aussi dans l'association sur la question de l'institutionnalisation. Quand je parlais de ça tout à l'heure, je parlais évidemment pas du fait qu'on est récupéré par les institutions, mais que l'association s'institutionnalise, c'est-à-dire répond à un besoin. Ben voilà, on a des salariés, donc les salariés, ben ça demande d'avoir des rentrées d'argent. Enfin, voilà, c'était plus ça que je voulais dire, qui rentre dans un système qui est différent d'une association entièrement gérée par des bénévoles. Voilà, c'était simplement petite parenthèse sur ces questions-là, et c'est vrai que c'est une question que se posent toutes les associations à partir du moment où elles commencent à salarier des gens et que ça pose toutes ces questions-là. Pour revenir sur les questions de l'éducation, c'est vrai qu'à l'origine, c'était une asso qui était pas mal militante sur ces sujets, c'est toujours le cas aujourd'hui, évidemment. Ce qui est intéressant, Robin, c'est que, et surtout dans la situation à Lyon, et c'est quand il y a des choses qui sont assez intéressantes, ça vaut le coup de le souligner, parce que c'est pas forcément le cas ni partout, ni tout le temps. Le Grand Lyon, en fait, a des conventions d'éducation à l'environnement et au développement durable avec pas mal d'associations grand lyonnaises. Et ce qui est assez unique en France. Et c'est vrai que Robin, du coup, profite, au sens noble du terme, bénéficie de ce dispositif pour lui permettre d'intervenir dans des écoles du Grand Lyon régulièrement, c'est-à-dire, enfin, selon les écoles, plus ou moins régulièrement, ponctuellement ou sur des temps longs à l'année, etc. Et c'est vrai qu'après, ça marche plutôt bien avec les instituteurs, avec les enfants aussi. Enfin, c'est des choses qui fonctionnent bien. Et ça a été l'occasion d'ailleurs de développer un outil qui s'appelle La Ville en Valise, qui aujourd'hui est diffusé nationalement et même un peu internationalement. On en a quelques-unes en dehors des frontières métropolitaines.
Waouh !
Et ouais. Et c'est un outil, en fait, simplement, c'est une vraie, ça s'appelle La Ville en Valise. Nous, chez nous, c'est très basique, hein. Robin des villes, c'est pas pour rien. Ville en Valise, c'est pas pour rien. C'est une valise. Une grosse valise, dans laquelle il y a des petites valisettes et qui questionnent un peu les différentes thématiques de la ville. Comment on la fabrique? Qui c'est qui la fabrique? Qu'est-ce que ça veut dire, la ville? Et c'est la capitalisation, en fait, d'une dizaine d'années d'expérience, puisqu'elle a maintenant quelques années, de plus de 10 ans d'expérience en animation dans les écoles, et qui a pour ambition que les instituteurs ou les animateurs de centres sociaux ou des mairies, des bibliothèques, des entreprises, des bureaux d'études, des gens, enfin n'importe qui, soient en autonomie pour mener des actions dans ce domaine-là. Et en fait, ce qui est très fort avec les démarches éducatives, surtout dans ce domaine-là, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, ben, ça se fait pas. Et que la ville, c'est quelque chose dans lequel la moitié des gens aujourd'hui en France, du moins, et dans le monde même depuis 2-3 ans vivent. Et en fait, ben, on a des cours de géographie. Alors géographie, voilà, les grandes aires urbaines, etc. Mais on n'a rien de plus sur la ville, en fait. Ce que c'est la ville, l'urbanisme, l'histoire de la ville, des choses comme ça, on n'a rien là-dessus. Et c'est vrai que c'est un énorme manque. Et l'éducation nationale s'en est rendu compte, puisque c'est maintenant dans les programmes pour l'école élémentaire. Mais du coup, ben voilà, après, comme souvent, on met des choses dans les programmes, mais après, derrière, ben, il s'agit de l'enseigner, c'est pas forcément facile. Et alors, on n'est évidemment pas les seuls en France à faire ça, encore heureux, mais c'est vrai que voilà, c'est une thématique qui a besoin encore d'être travaillée, d'être appropriée par les enfants, les futurs citoyens, ou nous à l'époque, mais maintenant c'est un petit peu trop tard pour nous, mais après, on est dans des logiques différentes, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, c'est une thématique qui est trop peu abordée dans le milieu éducatif actuel.
Donc finalement, notre Robin, avec sa valise multifacette qui part dans les écoles, etc., voilà, hein, les jeunes écoliers, quelque part, l'objectif, c'est peut-être un petit peu aussi d'éduquer et de rappeler aux gens leurs racines. Et je sais pas, on est à Lyon, donc moi j'ai envie de dire... Robin des villes avec sa valise, il rencontre le petit prince de Saint-Exupéry, et alors on va lui dire dessine-moi un mouton, mais Robin, dessine-moi ta ville idéale.
C'est exactement ça, ouais. La ville idéale, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'on y met, comment on la fait.
Ça fait partie des outils aussi parfois des activités proposées, de faire par exemple des maquettes utopiques aux enfants. Au départ, donc la ville en valise, qui est un des gros outils des Robins, les Robins des villes, ça a démarré à l'hôpital.
Ah oui, à l'hôpital.
Ça a démarré à l'hôpital.
Avec les clowns, non ? Enfin, pas bah, l'association. Hein.
Non, pas avec. Mais en intervention, pareil, dans des chambres où l'idée. Une des idées générales, c'était de permettre à l'enfant qui est à l'hôpital de se repérer dans la ville, lui qui est dans sa chambre, et d'arriver à se repérer géographiquement, ne serait-ce que ça déjà. Parfois, c'est des enfants qui habitent pas la ville, qui arrivent à l'hôpital, voilà, qui ont besoin de repères de ce type. Et ensuite, l'outil s'est étoffé. Ça a été aussi un moyen de capitaliser aussi toutes les activités que Robin avait dû mettre en place, toutes les animes, etc. Et donc c'est un espèce de méga outil pédagogique où ça peut parler d'urbanisme, d'archi, de paysage, de transformation, de chantier, etc. Et voilà, et du coup, au départ, c'est pour les enfants, les écoles. Ça peut être aussi, ça a été approprié par des, je sais pas, de réseaux d'art et d'histoire, des choses comme ça, des institutions. Pour les adultes aussi, à la base, c'est pour les enfants.
Voilà. C'est vrai qu'au final, on l'utilise dans à peu près toutes nos activités, même si c'est pas directement des actions d'éducation pour les enfants. Enfin, ça, en fait, c'est les outils qui marchent un petit peu pour tout, quoi.
Mmh. Mais moi, quand je me suis intéressée un petit peu à votre association, je suis tombée un petit peu sur un ersatz. Enfin, j'ai pas bien compris. Il y a une mallette. Enfin, j'aimerais bien que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est que le skit à station. C'est quoi ce truc bizarre?
Le skit à station. Eh ben, alors ça, c'est un ancêtre de la ville en valise, en fait. C'est-à-dire que, enfin, la ville en valise, enfin. Ça a été quasiment 7 ans de travail pour la créer. C'est un travail considérable. Et en fait, du coup, c'est passé par pas mal de prototypes. Et avant que ça devienne ce à quoi ça ressemble aujourd'hui, la ville en valise, c'est passé par pas mal d'étapes. Et notamment, donc, il y a eu un prototype qui a été fait à l'hôpital. Donc, c'était un espèce de petit chariot roulant, comme les infirmières ont pour distribuer les repas. Et sauf que dedans, on avait plein d'outils, des éléments de maquette, des trams pour activités, etc. Et on a aussi développé pour des stations de ski.
Des stations de ski, voilà. Mais où est la ville ?
Eh ben, justement, c'est introduire un peu d'urbain en ville, en montagne, pour le coup, pas du tout en ville. Effectivement, c'est vrai que les stations de ski, c'est un objet assez particulier, hybride entre milieu rural, parce qu'on est au milieu de la campagne, et en même temps, ça reste.
Je sais pas si c'était une réussite.
Ah oui?
Oui, c'était. Les avis sont partagés sur les skis de station, mais c'est vrai que c'est mine de rien quelque chose qui a aidé à aussi.
C'est parti avec la fonte des neiges, je ne sais pas.
Non, ça avait pas très bien fonctionné à l'époque dans l'absolu, dans les animations, etc. C'est pas, mais ça reste un jalon, on va dire, dans l'histoire de la création de la ville en valise.
Et juste, j'avais une question concernant justement la ville en valise. Est-ce que par exemple vous travaillez sur comme on a Lyon, sur l'histoire de Lyon, je sais pas, avec des cartes Lyon, qu'est-ce que c'était en 1800, comment ça a évolué? Est-ce que dans les écoles, vous allez dans des écoles qui font partie du grand projet urbain, ou c'est ça peut être toutes les écoles de tous les quartiers, ou est-ce que vous êtes liés, vous allez dans un quartier justement où il y a un projet d'urbanisme important?
Ouais, alors il y a deux questions dans celle-là. La première, c'est sur l'histoire de Lyon, par exemple, puisqu'on est à Lyon. La ville en valise particulièrement, c'est un outil qu'on a essayé de concevoir pour qu'il soit diffusable. Donc on a essayé de le, alors c'est un vilain mot, mais on a essayé de le déterritorialiser, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle soit utilisable ailleurs. Donc elle n'est pas forcément très liée à l'histoire de Lyon à Lyon, l'outil en lui-même. Après, c'est la manière dont on l'utilise. Et c'est vrai que nous, on utilise aussi beaucoup l'histoire de Lyon dans nos autres activités aussi, par exemple des activités de sensibilisation, parce qu'on est en trois pôles, éducation, sensibilisation, concertation. Sensibilisation, c'est un peu la même logique, mais grand public, donc qui comprend aussi les adultes. C'est ce qui expliquait tout à l'heure Gilles sur les balades, les conférences, etc. Et du coup, par exemple, dans les balades, ben du coup, on travaille beaucoup sur l'histoire de Lyon parce que c'est un bel exemple de comment la ville s'est construite, au-delà d'être intéressant parce que c'est notre ville, on y habite, etc. Lyon est un bel exemple de développement urbain, partant de Fourvière vers les plaines de l'Est, etc. Donc on utilise beaucoup ça, mais dans la ville en valise, pas trop. Après, la deuxième question, c'était sur où est-ce qu'on intervient dans les écoles. Au niveau de nos activités vraiment éducatives, on intervient en fonction de projets pédagogiques d'établissement. On rentre dans des cases un peu administratives. C'est pas très intéressant de rentrer dans le détail, mais c'est vrai que c'est en fonction des écoles qui ont envie de travailler avec nous, dont certains instituts développent des programmes qui correspondent à ça. Voilà, donc c'est des systèmes de conventionnement, de trouver des partenaires, des écoles avec qui on va travailler, etc. Donc elles sont réparties un petit peu partout sur le Grand Lyon, pas spécifiquement sur les quartiers qui sont en renouvellement, même si ça arrive aussi, évidemment, parce que souvent sur ces quartiers-là, ben, les instituts sont intéressés pour travailler sur ces questions-là avec les écoles, avec nous. Après, des fois, on a des projets qui vont un peu plus loin. Et il y a notamment un projet très intéressant à Saint-Priest sur l'école Brunier qui était assez chouette, où on s'est associé avec une artiste archéologue, Gabrielle Boulanger, sur l'école allait être démolie et reconstruite. Et du coup, il y a eu tout un travail de mémoire de fait dans le cadre d'un projet urbain beaucoup plus large. Hein, Saint-Priest, ça bouge de partout là-bas. Et donc il y a eu un gros travail de fait avec les enfants de création de vestiges archéologiques sur une année avant que l'école soit démolie, qui ont été enterrés dans la cour de l'école, enfin là où il y avait de la terre parce qu'on allait leur faire creuser du béton. Et du coup c'était aussi l'occasion de découvrir le chantier parce qu'ils ont fait venir la pelleteuse pour creuser le trou, etc. Et l'année d'après, une fois que l'école avait été démolie, etc., ils sont venus creuser et redécouvrir tous ces vestiges qui avaient été posés l'année d'avant. Donc c'est aussi une initiation à l'archéologie. Ils ont tout bien recensé, coté, pris des photos, fait des petites fiches. Il y a eu une exposition archéologique qui a été faite. Voilà. Et du coup, c'est une manière de montrer aussi comment on garde des traces, qu'on travaille sur la mémoire de ces changements quoi dans la ville. Et ça a vachement bien marché. Les enfants étaient très très contents et nous aussi d'ailleurs. C'était vraiment super chouette.
Et tu parles de balades. Je crois que il me semble que par moment vous organisez des balades. Je sais pas moi. Tu me parles de balades. Ok, Robin des Villes. J'ai posé la question au départ. Robin des Champs. Tu me parles de balades. Moi, je vais plus penser à la nature. C'est la campagnarde d'origine qui parle. Et quid des écoliers de la campagne. Vous allez pas les voir. Ils ont pas droit à leur ville idéale aussi.
C'est une très très bonne question. Après, on est limité par nos moyens d'action. Et puis c'est vrai que là, en éducation particulièrement, on intervient surtout sur le Grand Lyon. Donc le Grand Lyon, pas beaucoup de rural dans le Grand Lyon, même s'il y en a encore un peu. Après, c'est vrai que on n'exclut pas du tout ces logiques-là, mais on travaille aussi là où on peut. Par contre, les balades, bah, c'est plutôt des balades urbaines. C'est plutôt des balades sur l'histoire de la ville. On en fait un peu partout. Après, des fois, on est à la limite. Hein. On a déjà fait pas mal de balades vers Mézieux et ces choses-là, et qui permettent aussi de questionner les limites ville-campagne. Mais voilà, c'est vrai que la campagne, proprement parlée, on n'y va pas beaucoup, faut reconnaître. Mais après, on n'est pas les seuls à faire ce genre de choses non plus.
Et ensuite, au niveau, des différentes influences, vous avez parlé d'archi, archi d'intérieur, je ne sais pas, peut-être pas, architecte paysagiste et urbaniste. Comment se fait la cohésion entre ces différentes professions?
C'est une bonne question. C'est une autre question parce que c'est vrai aussi en dehors de Robin des Villes, c'est un petit peu la guerre entre ces trois grandes catégories, archi, urbain et paysagiste particulièrement. En fait, au Robin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus trop d'archis. Bon, c'est plus un fait de l'histoire qu'une volonté particulière. Il y a aussi pas mal de sociologues, des choses comme ça. Mais après, c'est simplement qu'on est tous ensemble autour d'une même logique, quoi. Rendre notre intitulé, c'est connaître, partager et transformer le cadre de ville. Et je pense que ce qui est particulier, c'est qu'on se retrouve tous là-dedans. Et donc, en fait, on est plus dans une logique d'apporter nos diverses compétences dans le fait d'avancer vers ça, quoi.
Et tout à l'heure, tu parlais de la petite mallette au niveau des écoliers qui partait un petit peu partout, maintenant qui commençait à traverser l'Europe. Moi, la question, c'était comment on s'intéresse à l'urbanisme de la ville. À Lyon, par exemple, Lyon est très marqué par les archis internationaux. Et du coup, comment vous vous tournez, enfin, comment vous faites le lien justement dans la découverte du niveau architectural de ces différentes nationalités, de ces différentes influences. Je sais pas, je pense à Confluence par exemple, qui est vraiment, à mon sens, l'image de ces différentes influences. Comment vous faites pour aller à la découverte de tout ça, pour l'amener vers les enfants?
Ah, c'est une bonne question, c'est pas toujours facile, hein. L'architecture, c'est un domaine qui peut parfois être un peu étanche et pas forcément évident. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que nous, on se focalise surtout sur le... Alors, c'est une expression un petit peu jargonnée, je m'en excuse, mais sur le fait urbain, c'est-à-dire sur ce qui fait la ville. Et l'architecture, c'est une des choses qui fait la ville. On travaille aussi pas mal sur la biodiversité. On est installé à la maison de l'environnement, on travaille avec la LPO, les petits oiseaux, on travaille avec la FRAPNA aussi, des fois on organise des balades sur la place des oiseaux en ville, etc. Enfin, c'est juste pour reciter dans un cadre plus large. Et du coup, c'est vrai que des structures d'éducation à l'architecture, il en existe, même à Lyon il y en a plein, il y en a une d'ailleurs qui s'est créée cet été, qui est assez chouette. Et nous, on est plus sur l'urbain de manière générale, et ce qu'on essaye de faire en sorte, c'est que les enfants s'y intéressent, le découvrent, aient un regard sensible, c'est-à-dire aiguisé et amélioré par aussi leur capacité de comprendre les sentiments qu'ils ont en les regardant vis-à-vis de l'architecture, mais pas forcément en étant dans la logique de dire tel bâtiment était dessiné par telle personne, il est de tel pays, etc. On n'est pas forcément dans cette logique-là. Je pense que c'est une étape supplémentaire. Nous, c'est pas forcément notre objectif. Il y a des gens qui font ça très très bien. Mais c'est vrai que, par exemple, sur la Confluence, pour continuer cet exemple, nous, notre objectif, on a organisé des fois des sortes de rallyes photos, des fois des balades un peu plus où on leur montre des choses, des fois c'est des courses au trésor, des choses comme ça. L'objectif, c'est surtout en fait qu'ils apprennent à regarder la ville qui est autour d'eux. Après, en général, ça s'inscrit dans un cycle plus large où on a aussi des temps en salle sur vraiment la construction de la ville via des jeux de rôle, des choses comme ça. Et surtout qu'ils aient un regard critique sur ce qui les entoure, en fait. C'est-à-dire pas forcément de montrer, de dire voilà, vous voyez, ça c'est mal, mais pas non plus dire, vous voyez, voilà, ça c'est bien. C'est juste montrer la ville telle qu'elle est, montrer comment elle se fait et essayer de leur faire comprendre. Et ben voilà, construire ça, ben c'est peut-être bien parce que Confluence, vous êtes content qu'il y ait un centre commercial, parce que vous y allez le week-end avec vos parents. Mais voilà aussi ce que ça veut dire à côté. Du coup, en termes d'urbain, se rendre compte de pourquoi il a été placé comme ça, qu'est-ce que ça implique, des choses comme ça. Voilà, l'urbanisme, pour reprendre le cas de la Confluence, il y a des choses super qui sont faites là-bas. Il y a d'autres choses qui sont pas forcément ce qu'elle donne l'impression d'être, notamment au niveau des espaces verts, qui sont des choses assez chouettes le long de la Saône. Qui ont des dysfonctionnements parce que c'est très artificiel, parce que forcément des espaces comme ça c'est pas complètement naturel, et voilà, c'est pas forcément leur donner un avis en disant ben voyez la Confluence c'est horrible, parce que enfin après chacun a son avis, je trouve que c'est pas le cas, mais simplement dire ben vous voyez en fait ben il y a des choses derrière qu'on voit pas forcément, et c'est important d'en avoir conscience aussi pour avoir un avis général.
Je crois qu'on va faire une petite pause musicale. Alors je crois que nous sommes des grands enfants autour de cette table. Moi, tu m'as parlé d'utopie, tu m'as parlé de rêve. Moi, si j'appelle la petite fille qui est en moi, je ferme les yeux et je rêve à ma ville idéale. Alors je vais vous dire à vous, les archis, les urbanistes, etc., quelques paroles. J'aurais bien envie d'un petit lac, j'aurais bien envie d'une rivière, une petite montagne par-ci, un peu plus d'arbres. Quid, qu'est-ce qu'on fait ?
Bah alors pour le lac, avec la pluie qui tombe là, ça va être facile.
Non, on pourra sauter dans la boue.
Complètement. Ouais. On fera ressortir les enfants effectivement qui sont en nous. Mais non, la question de l'utopie, c'est assez paradoxalement peut-être, c'est un objet très sérieux. Et l'utopie, alors bon, en plus souvent on n'utilise pas le terme tout à fait dans son sens vraiment d'origine, etc. Mais on va dire que c'est un petit peu la ville qu'on rêve quand on parle de ville utopique, et la ville qu'on aimerait. Et ce qui est très difficile, en fait, c'est de confronter cette ville utopique avec ce qu'on peut vraiment faire, quoi, notre capacité d'action. Et quand je dis la nôtre, c'est celle de l'humanité, quoi. Hein, c'est pas forcément la nôtre là, nous autour de la table. Et c'est des choses qui sont pas évidentes à saisir aussi, parce que justement, ça renvoie à comment on fait la ville, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ça me fait penser à nos actions de concertation, qu'on appelle concertation, mais qui revient à faire participer en gros les habitants d'un quartier, par exemple, quand il s'agit de redessiner la place du quartier ou le quartier en lui-même, des choses comme ça, et où on utilise le passage par l'utopie pour travailler avec les gens.
Et ça leur plaît, ça, de passer par l'utopie. Les gens appellent facilement cette faculté à imaginer l'utopie, quoi, une vaste idée.
Mais alors, ce qui est pas facile, ce qui est à la fois dommage et en même temps intéressant, c'est qu'en fait il y a une très très grosse autocensure des gens quand on parle de ville utopique. Les enfants, j'ai envie de dire, on pourrait s'y attendre, mais les enfants ça marche un petit peu mieux
sur cette question-là. Oui.
Mais parfois on est surpris, hein. C'est pas non plus toujours vrai sur ce point-là. Mais l'utopie, ça, c'est un passage qui est très intéressant parce que ça permet de se dégager des contraintes et de se dire, voilà, finalement, qu'est-ce qu'on aimerait, quoi, avoir autour de soi. Alors des fois c'est des trucs assez farfelus, voilà, je sais pas, la statue d'un footballeur célèbre, des trucs comme ça. Bon.
Mais quand t'es en concertation, c'est possible d'agir sans contrainte.
Alors la question c'est voilà, c'est le passage à l'action derrière. Et c'est vrai que le passage à l'utopie, il est intéressant, mais c'est une étape. Et pour reprendre donc l'exemple des missions de concertation, l'intérêt de l'utopie, c'est que ça va justement permettre de réfléchir sans contrainte, c'est de se dégager du cadre dans lequel on est. Et derrière, ça va permettre de peut-être d'imaginer de nouvelles orientations, de nouvelles choses. Parce qu'effectivement, si on est à l'échelle d'un quartier et que les gens disent, bah, tiens, on aimerait bien avoir, pouvoir skier à moins de 5 minutes de chez nous, bon, on est un petit peu hors contexte.
Il y a un petit peu de limite.
Voilà. S'ils disent, on veut un lac, bon, éventuellement, peut-être un point d'eau. Déjà, c'est difficile, mais pourquoi pas. Mais voilà. L'idée, c'est de absolument pas brider l'imagination. Si les gens, de toute façon, ce que les gens vont pouvoir dire, vont pouvoir vouloir, finalement, ça va de toute façon nourrir la réflexion. Si c'est pas sur ce projet-là, ça nourrira la réflexion plus largement, par exemple, de la mairie dans le cadre d'un réaménagement d'un quartier pour peut-être un plan plus largement à l'échelle de la commune, etc. Souvent, des points qui reviennent, c'est par exemple, je sais pas, des piscines, plus d'espaces verts, etc. Même si c'est pas faisable à l'échelle du quartier.
Eh ben, mais l'eau, d'où vient l'eau?
Voilà, l'eau.
C'est possible de faire autant de piscines que ça?
Ah, ça, c'est un débat. C'est vrai que les gens souvent veulent des piscines. Moi, personnellement, je sais pas pourquoi. C'est pas plus que ça, mais souvent les gens en veulent. Et voilà. Et après, ce qui est difficile, c'est ça. C'est de revenir à, entre guillemets, à la réalité. C'est-à-dire, bon, bah voilà, n'empêche qu'on est dans un projet. On est dans une logique projet, parce qu'aujourd'hui, tout est dans une logique projet.
La
fameuse
méthodologie du projet.
C'est ça.
Plan d'action.
Assez dur d'en sortir, même si c'est pas prévu pour faire participer les gens. Donc, ce serait bien de réussir à inventer une nouvelle chose, mais bon, ça c'est un combat bien plus vaste et on n'est pas les seuls sur le coup, heureusement. Et donc voilà, c'est ramener un petit peu les contraintes. Alors c'est un bien vilain mot pour parler de toutes ces questions d'argent, etc. Et en fait,
oh mon Dieu, va dire trop Satanas.
Et ouais, et en fait, bah les gens, ça marche quoi. On leur parle d'argent, on leur dit, bah voilà, la mairie, les différents partenaires, etc. C'est eux qui décideront à la fin. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on essaie de travailler ensemble dans telle et telle limite pour faire ça et ça. Sur certaines choses, eh ben, la mairie a dit qu'on pouvait pas négocier dessus parce que, pour telle et telle raison technique, financière, politique, etc. Et on parle d'argent. Et en fait, quand on arrive à le faire, parce que les collectivités sont pas toujours partantes.
Ah bon?
Quand on arrive, bizarrement. Quand on parle d'argent, eh ben, les gens, ils comprennent aussi. Parce que, en général, aujourd'hui, quand on parle d'argent, c'est pour dire qu'on en a pas beaucoup. Et ben, les gens, ils comprennent. Et simplement, les gens sont pas bêtes et simplement, et si on dit qu'on a un budget de temps de, je sais pas, 200 000 euros pour réaliser une place et qu'on dit, qu'on fait comprendre qu'un banc, c'est pas le même prix qu'un banc en plastique qu'on achète pour mettre dans son jardin, un banc sur un espace public, c'est quelques milliers d'euros avec la pose, et ben, on peut pas recouvrir la place de banc. Et en fait, c'est simplement les gens comprennent et on vient alimenter ça de l'utopie qui a été faite avant et on construit avec les gens. On dit, bah voilà, vous avez parlé d'espaces de rencontre, de choses comme ça. Alors, dans l'utopie, vous l'avez imaginé, parce que les gens ne spatialisent pas forcément, quand ils parlent d'utopie, ça peut être plus des principes. Et du coup, comment on va essayer de traduire ça avec le budget qu'on a, avec la possibilité qu'on a et l'espace qu'on a. Et là, ça devient vraiment très intéressant. Et là, on rentre dans la coproduction. Mais on n'arrive pas à aller jusque-là tout le temps, malheureusement. Ça dépend des partenaires aussi.
La production collaborative. Mais historiquement, enfin, votre association, elle est quand même un petit peu assise au niveau du temps. Comment vous accompagnez justement les gens? Parce que moi, quand tu me parles d'utopie, je peux pas m'empêcher de me dire, oh mon Dieu, j'ai un petit peu peur de la chute. Que va-t-il advenir de demain? Et en termes d'éducation, de concertation, de sensibilisation, tu as dit tout à l'heure, finalement, c'est les gens qui décident. Ben, mais est-ce réel? Est-ce que c'est ça? On continue pas justement d'être dans ce discours utopique. Voilà, comment vous avez accompagné les gens dans les différents projets et pour que ces projets deviennent des réalités?
Juste, ou sans que les gens décident, mais est-ce qu'ils arrivent à influencer sur certains points qui avaient peut-être pas été bien pris en compte au départ?
Mais l'utopie est un combat qu'il s'agit de défendre, de mener. Non, en fait, Robin Desvilles, à l'origine, c'était au début des années 2000, en fait, on travaillait donc sur nos questions d'éducation, de sensibilisation, on travaillait avec nos petits-enfants, voilà, on faisait nos animations, c'était chouette. Et c'était déjà un sacré pas en avant dans le lien qu'ont les gens avec leur environnement urbain. Et puis, au début des années 2000, il y a commencé à avoir des sacrés chantiers dans certains quartiers, voilà, des démolitions, tout ça, dans les grands ensembles qui avaient été construits dans les années 60. Alors bon, on va pas revenir sur l'histoire de la ville française, même si ce serait assez passionnant. Mais toujours est-il que, voilà, début des années 2000, il y a eu des gros des grosses transformations urbaines en France, et ça a notamment commencé, c'était pas le seul, mais ça a notamment commencé à Saint-Etienne avec la fameuse muraille de Chine, qui au début des années 2000, voire même en 2000 si je me souviens bien, a commencé à être un peu grignotée par les bulldozers. Et en fait, à l'origine, c'est des habitants donc de la muraille de Chine qui ont sollicité Robin des Villes en disant, bah voilà, vous travaillez sur la ville, nous on vient d'apprendre qu'on se faisait expulser de chez nous, les bulldozers arrivent dans un mois, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire, etc.
Et vous arrivez à calmer le jeu, à apaiser les tensions?
C'était la première fois qu'on intervenait sur ces questions-là à ce moment-là, donc c'était pas facile.
Parce que là, c'était
facile.
L'urgence, quand vous arriviez en pompier.
On était dans l'urgence, voilà, exactement. C'est encore un petit peu trop souvent le cas, mais on reviendra là-dessus.
Mince alors.
Et bon,
si vous avez la lance.
C'est ça. On manque d'eau des fois. Et ils sont trop dans les piscines. Mais du coup, on était complètement bloqués sur le calendrier. Enfin, je veux dire, on était bien trop loin dans le temps. Les choses étaient validées par l'État, le préfet, le machin, le truc. Bon, on pouvait plus rien faire. Donc, on a fait un travail de mémoire avec les habitants, de recueil de paroles, de travail artistique autour de la mémoire sur l'immeuble, etc. Et on a rien pu faire sur la démolition.
Et c'est des choses qu'ils ont pu conserver, qu'ils ont toujours avec eux, ce travail de mémoire.
Alors, aujourd'hui, 15 ans plus tard, je sais pas. J'espère que oui. Mais c'était du travail sur du travail photo, de dessin aussi, de recueil de paroles, etc. Moi, j'avoue que j'étais pas dans l'association à cette époque-là. J'étais déjà né, mais j'étais quand même pas dans l'association.
Un grand enfant.
J'ai pas forcément de suivi là-dessus, mais d'ailleurs, c'est ce qui manque souvent, le suivi. Mais en tout cas, ça nous a beaucoup questionnés sur ces sujets-là, et donc c'est à partir de là qu'on a commencé à s'intéresser à la concertation. Et donc, dans les premières années, comme je disais au début, le contexte n'y était pas du tout favorable. Donc, on était plutôt sollicité par les habitants, dans des contre-projets, des choses comme ça. Et puis après, le contexte a petit à petit évolué. Il y a eu des lois qui ont un peu forcé la concertation. Alors, c'est des lois qui aujourd'hui encore
des
sont...
lois. Et qui ouais, force la concertation, mais c'est quoi ça?
Alors juste pour avoir une petite idée de à quoi ça ressemble la loi aujourd'hui dans la concertation, la loi, elle oblige les collectivités...
Elle
oblige les collectivités, mais à concerter à hauteur de ce que les collectivités ont dit qu'elles feraient. C'est-à-dire que si la collectivité dit « je ne ferai qu'une réunion publique », il suffit qu'ils fassent une réunion publique et ils sont dans la loi. Donc en gros, la loi, c'est un petit pas en avant dans le principe, mais dans les faits, c'est pas non plus fou, quoi. Mais n'empêche, les mentalités ont évolué, on a commencé à parler de tout ça. Et donc, on a commencé à pouvoir travailler avec les collectivités. Et du coup, maintenant, on est dans des logiques de projets. On travaille avec des collectivités ou des bailleurs sociaux, des choses comme ça. Et sur des projets où, du coup, nous, on va dire qu'on peut encore aujourd'hui se permettre de choisir un peu là où on va travailler.
Choisir où on va travailler dans le monde d'aujourd'hui. Waouh!
C'est ça. Alors, en gros, on a des sollicitations, et puis, des fois, on sent qu'il y a des endroits où, effectivement, on sera uniquement utilisé comme fusible. Ça nous intéresse pas trop. Après, ça nous arrive encore de temps en temps de nous tromper.
Faut pas péter le fusible, justement. Faut pas qu'il grille.
C'est ça. Non, mais c'est trop souvent, en fait. C'est vrai qu'on est sollicité pour intervenir comme des pompiers. C'est-à-dire, oh là là, on a voulu faire un truc, ça a pas du tout marché, là, les gens, ils sont pas du tout contents. Est-ce que vous pouvez venir nous aider?
Tu sais quoi, quand tu parles de ça, moi, ça me fait penser à quelque chose. On est en bas des pentes de la Croix-Rousse. Dans le pays des canuts. Moi, ça me fait penser à la réfection de la place Berton qui a eu lieu il y a peu de temps, hein, je crois il y a un an. Je sais qu'il y a eu beaucoup de réunions publiques au niveau des habitants pour que les habitants puissent donner leur avis, etc., les commerçants. Je sais pas, est-ce qu'ils ont été tant écoutés que ça? Les arbres sont-ils restés, place Berton?
Ah, c'est une bonne question. Moi, je connais.
Il y a toujours de l'oxygène là-haut.
Moi, je connais pas très très bien la Croix-Rousse. Je suis vraiment désolé. Moi, je suis de la Guillotière, rien à voir.
Je sais pas non plus.
Rien à voir.
Par contre, sur la méthode un peu Robin en ce qui concerne la concertation, on a aussi sur des actions renouvelées, des expérimentations. Notamment, je pensais à l'aménagement concerté des cours d'école. Où c'est quelque chose qui a été mis en place. Il y a 2-3 ans, je pense, qui était à titre expérimental dans des cours d'école, de faire travailler en amont les enfants.
Ils sont vraiment écoutés, ces enfants-là?
C'était le but, c'était de mener des séries d'ateliers, donc à la fois de jouer notre rôle d'éducateur, et eux, en même temps, de les former à être des futurs habitants adultes qui pourront aussi participer participer tout simplement, en fait.
Mais là, dans ce cas-là, ça va encore plus loin. C'est que les enfants dessinent la cour d'école et elle est construite comme les enfants l'ont dessinée.
Attends, moi, si je dessine ma cour d'école, je fais une soigno, je fais un rêve et du coup, j'ai plus envie de la quitter. Donc, je vais même plus envie d'aller au collège après. Ah, comment on règle
qu'un jour,
le problème?
On refera les cours du collège. Hein.
Du collège aussi, waouh.
Pourquoi pas, hein. Attends, hein, maintenant que ça va passer à la métropole, tout ça, c'est le Grand Lyon qui s'occupera des collèges.
Et université, tout ça, les étudiants, ils ont droit de rêver à Lyon?
Ouais, mais ils peuvent sortir des cours, les universités, ça. Ils peuvent aller dans les parcs. Non mais dans les concertations, c'est vrai que si la concertation de manière générale en France, on voit de tout quoi. Et de rien aussi, mais de tout.
De tout et de rien.
Voilà. Et donc, souvent, on parle de concertation alors qu'en fait, il n'y a rien. Souvent, les habitants ne sont pas entendus, etc. Du coup, il y a une frustration qui se crée. Du coup, des fois, quand il y a de la, entre guillemets, de la vraie concertation qui arrive, on est tellement persuadé que ça ne va pas être le cas, qu'on n'y croit pas, etc. etc. Et, mais des fois, les collectivités écoutent. Et après, il y a différents niveaux d'écoute. Mais ça, on pourra en parler pendant des heures. Mais c'est vrai que même nous, dans les projets où on intervient, ou quand même Robin Desvilles, par rapport à l'essentiel de on va dire des structures qui font de la concertation a un point de vue une ambition très assez large qui vise à aller à la co-construction, vraiment mettre les gens autour de la table et construire ensemble, pas juste écouter les habitants et dire à la mairie tiens la mairie ou le bailleur ou
faire le lien
et pas juste leur dire tiens les habitants ils ont dit ça, ce serait bien qu'à un moment peut-être vous en preniez en compte ça dans votre projet. Non, c'est vraiment nous notre ambition, c'est de construire avec les gens, c'est-à-dire on met les techniciens et les archis et les habitants autour d'une table et on dessine ensemble et au final ce sera ça le projet, peut-être remodifié parce qu'il y a 2-3 contraintes techniques etc., mais sans plus. Bon. Ça c'est l'ambition. C'est la théorie. Mmh. Et on n'y arrive pas toujours. On arrive des fois jusque-là avec certaines mairies, certains acteurs. C'est des questions de personnes, des questions aussi beaucoup politiques. Et des fois, ben, on arrive un peu
c'est
en dessous.
C'est facile,
en tout cas,
ça, les questions politiques.
On essaye d'aller toujours le plus loin possible. Et la question politique, non, c'est jamais facile. Hein. De toute façon, la ville, c'est politique. Et, donc forcément, on y touche, quoi. On y touche. Et on y touche des deux côtés. Hein. On y touche.
Deux côtés, c'est quoi
des deux côtés. Souvent, on se retrouve pris entre deux feux, des habitants et des élus. On se retrouve ouais, pris en sandwich, ouais, sans aucune connotation particulière. Et c'est vrai que c'est des métiers qui sont pas faciles. Encore une fois, c'est pas que pour nous. Hein.
Mmh. Et tu parles.
Mais c'est motivant.
Excuse-moi. Tu parles de métier, on a parlé de salariat tout à l'heure. Moi, en fait, alors je vais prononcer un gros mot. Ça me fait penser à un métier qui existe, pour lequel d'ailleurs la formation n'existe pas, mais c'est un métier qui est de plus en plus répandu. Il me semble qu'il est arrivé de Belgique, Canada, un peu de Suisse, etc. C'est le métier de manager de centre-ville. Est-ce que c'est fait partie des acteurs avec lesquels vous travaillez ou pas du tout?
Alors, ça c'est une très bonne question. En fait, c'est assez rigolo, c'est quand on travaille très peu en centre-ville. Bizarrement, hein. Bizarrement, on est plutôt sollicité sur les quartiers qui sont en renouvellement urbain. Bizarrement, on est plutôt sollicité sur les quartiers qui sont en banlieue, en périphérie des communes ou dans des communes où la banlieue est un peu en centre-ville.
Peut-être que le poumon est là-bas.
Je pense que c'est plus complexe que ça. C'est aussi une question que. En gros, en centre-ville, ben c'est bête, mais souvent en centre-ville, on a des populations dans la ville française standard, on va dire, on a des populations qui sont un peu plus aisées, on a des commerçants en théorie. Après, il y a certaines villes qui ont un petit peu du mal à avoir des commerçants en centre-ville, mais c'est autre chose. On a des commerçants, des choses comme ça. On a des gens en fait qui sont outillés pour se faire entendre quand ils sont pas contents avec quelque chose. Et c'est des gens qu'on va écouter, que les collectivités.
Les structures existent, mais sont-ils vraiment écoutés? Ça, c'est une autre question.
N'empêche qu'ils ont des moyens de se faire écouter et que la mairie, les commerçants, tout le monde sait que les commerçants dans une ville, peut-être pas parler de lobby, mais en tout cas, c'est des gens qui sont écoutés. Parce que la mairie a besoin d'avoir des commerçants
dans
une ville. Donc, c'est des gens qui ont la capacité de se faire entendre, déjà. Et c'est vrai que les enjeux se situent plutôt sur des quartiers où les gens. Ils ont.
Il y a pas de réseau, quoi. Il y a pas.
Il y a pas de réseau. Pas forcément de cohésion, effectivement. Pas forcément de moyens. Et pas forcément de connaissances et d'envie non plus. C'est souvent des gens qui sont loin de ces questions-là. On intervient. C'est pas forcément l'intégralité des cas, mais on intervient parfois dans des quartiers où les gens leur souci, évidemment, c'est de réussir à boucler leur fin de mois.
Tu
et donc voilà, le réaménagement des espaces extérieurs de leur quartier, ça, ils s'intéressent pas trop. Alors que pourtant, il y a un vrai enjeu là-dessus.
Bien sûr.
Et donc c'est pour ça aussi que c'est un métier assez dur, c'est que il faut affronter des quotidiens qui sont souvent pas faciles et en même temps c'est entre guillemets pour le bien de ces quartiers, pour le bien des gens qui vivent aussi, mais il faut le faire comprendre d'une certaine manière et derrière il faut être en capacité d'influer pour de vrai. Donc c'est pour ça que c'est, quand je disais qu'on était pris entre deux feux tout à l'heure, c'est ça en fait, c'est-à-dire que
on est
en permanence
aussi,
sur le
fil
du
rasoir,
c'est ça, voilà, exactement, heureusement.
Vous avez des exemples de projets où justement ça c'était assez idéal, où ça s'est bien passé ou
Oui, heureusement, on en a quelques-uns. Donc, globalement, on a pas trop de projets qui ont complètement raté. Il y en a quelques-uns, malheureusement, dans notre histoire, mais c'est assez peu. Des exemples de projets qui ont particulièrement bien marché. Alors, juste avant d'en donner un ou deux, je dirais que le principal problème dans toutes ces choses-là, c'est premièrement qu'il y a très peu de budget dans la concertation. Souvent, ils prennent sur le budget com. Quand ils bossent avec nous, je me permets d'avoir la prétention de dire que c'est pas pour faire de la com, mais c'est pour faire vraiment de la concertation. Et souvent, sinon, c'est utilisé pour faire de la com qu'on va appeler de la concertation. Après, il y a pas.
Mais du coup, c'est des moyens détournés.
Ah non, c'est un budget com. Il n'y a jamais de budget de concertation dans les projets urbains.
Ah bon? C'est pas prévu?
Pas encore, en tout cas. On essaye de grappiller des sous un peu où on peut pour faire des missions de concertation. Quand je dis on, c'est les collectivités, les bailleurs, etc. Après, on n'est pas les seuls à faire de la concertation à un minimum correct. Hein. Il y en a quand même pas mal de gens en France qui sont capables de le faire. Je voudrais pas qu'on prend pas la grosse tête.
Qu'on se la pète, hein. Quoi, je veux dire.
Voilà. On n'est pas forcément les seuls et pas forcément les meilleurs d'ailleurs. Enfin voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que très souvent, voilà, c'est les grosses boîtes de com concert qui font ce genre de trucs. C'est pas forcément très intéressant. Et du coup, quand même, on a des belles réussites. Effectivement, notamment, on a travaillé à Fézin sur trois quartiers. Ah oui, pardon, je suis désolé, je reviens. J'ai commencé à dire ça sur les questions de budget parce que justement, en général, on n'a jamais de budget pour faire du suivi. Après.
Ah,
c'est-à-dire qu'on arrive au plan de l'archi. Alors, le plan de l'archi qu'on montre aux habitants en disant, bah voilà, regardez, il a pris en compte ce que vous avez dit, il a rajouté ses petites propositions, etc. Parce que les habitants, ils sont contents quand l'archi amène sa patte, hein. Ce que les habitants veulent, c'est les usages, en fait. Spatialisation, concrètement, c'est pas forcément, ça dépend de qui on a en face, mais c'est pas forcément ce qui les intéresse. Donc, on leur présente ça. Voilà. Et après, bah, on sait qu'il y a le chantier, et puis de temps en temps, on a l'occasion d'y revenir pour jeter un coup d'œil parce qu'on bosse à côté ou que c'est pas loin.
Et vous oubliez le service après-vente, hein.
Bah, c'est pas qu'on oublie, c'est qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc, très rarement c'est possible, mais c'est rarement le cas. Puis alors, après, si on parlait de co-gestion ou de choses comme ça, les espaces publics, c'est fantastique. Mais alors là, et donc, Fézin, on est intervenu au quartier des géraniums, notamment. Où ça
quartier des géraniums, ça fait rêver.
On a bossé dans d'autres quartiers où ça a vachement bien marché sur l'aménagement d'espace extérieur. À Grigny, 69, juste au sud, enfin dans le Grand Lyon, là, juste au sud de Lyon. On a travaillé sur les espaces extérieurs d'un quartier. La démarche s'est très bien passée, mais voilà, là-dessus, j'ai pas eu le temps de retourner voir.
Et quand tu dis on a travaillé, enfin après, en termes pratiques, basiques, qui travaille, qui réalise à la fin?
Alors, nous, on a des salariés. Moi, j'ai été salarié au Robin pendant quelques années sur l'action de concertation, justement. Donc, en général, on y va toujours un ou deux. Notre Gilles parlait tout à l'heure de la Robin Touch. Moi, il n'a pas appelé ça comme ça, mais
Robin Touch. You speak English a little.
La particularité de Robin des Villes, quoi, c'est d'être sur le terrain, en fait. C'est-à-dire qu'on va à la rencontre des gens. Ça peut paraître bête comme ça, mais en fait, ben, il n'y a pas tant de gens qui font ça. Et donc, on va.
Qui vont à la rencontre des autres.
On va là. Non, mais dans ce domaine-là, hein, je dis.
Ah.
Quand on parle de concertation, souvent, on parle de réunions publiques, éventuellement d'ateliers, on va travailler avec les gens, etc. Nous, ce qu'on fait en plus, encore une fois, on n'est pas les seuls, mais là, pour le coup, il y en a pas beaucoup qui font ça. C'est d'aller sur le terrain vraiment, c'est-à-dire en dehors de ces temps-là, parce que des fois c'est à la mairie, c'est pas toujours sur le quartier, de toute façon les réunions publiques et les ateliers. Et là en plus, on va sur le terrain, c'est-à-dire que on va rencontrer les gens, on va les soirs, des fois les week-ends.
Sur leur temps libre, quoi.
En espérant croiser des gens. Alors souvent c'est les quartiers où les gens ont du temps libre un peu en journée, malheureusement, ou pas d'ailleurs.
Ils sont prévenus.
Bien sûr, ils sont prévenus, etc. Mais on les rencontre. Alors des fois, on va jusqu'à faire du porte-à-porte parce qu'on a vraiment besoin de voir tout le monde, parce que pour
vous rentrez chez les gens.
Et souvent, on est très bien accueillis. Il y a aucun souci. Et en tout cas, on va voir, voilà, les gens. On va passer du temps. On va passer des demi-journées, des journées, des semaines, des mois, etc. Enfin, des journées sur certains mois, si un mois entier, on aurait le temps de rencontrer pas mal de gens. Et pour simplement comprendre comment le quartier vit, comprendre comment les gens le vivent, qu'est-ce qu'ils aiment là, qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qu'ils aimeraient changer, etc. Enfin, un espèce de diagnostic des usages, de comment les gens le vivent, un diagnostic sensible. C'est-à-dire qu'on va pas compter les voitures, on va pas compter les passages. Par contre, on va dire aux gens, est-ce que vous êtes content de votre quartier, est-ce que vous l'aimez, qu'est-ce que vous aimeriez changer, etc. Et après, à partir de là, on a cette petite phase utopique dont on parlait tout à l'heure, qui va permettre de dire, bah voilà, alors maintenant, on sait qu'on est dans le cadre d'un projet, on intervient là en logique de projet, parce que c'est toujours le cas maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Et après, on amène ces questions de contraintes, et on se dit, bah voilà, voilà sur quelle chose on peut agir ou pas, dans quel cadre, etc. Et là, on va commencer à travailler avec les gens, et on va dessiner, dans les cas où ça se passe le mieux, on va dessiner avec eux. Alors ça peut prendre un atelier, deux ateliers, quatre ateliers, un an parfois, avec des visites sur le terrain, des mesures, des rencontres avec des architectes qui apportent une expertise en disant bah voilà, là on va pouvoir construire des choses comme ci, comme ça, on va travailler sur des maquettes, sur des choses comme ça, etc. Comme ça a été le cas pendant très longtemps à Tarare par exemple. On a un projet qui s'est étalé sur 2 ans, un énorme projet de renouvellement urbain. Et puis derrière, l'architecte doit s'inspirer de tout ce que les habitants vont dire, du diagnostic qu'on lui a proposé, de son diagnostic technique à côté de tous les nombreux diagnostics techniques qui existent aussi, pour proposer un projet d'ensemble qui sera présenté aux habitants, et ensuite qui sera présenté à la mairie. Voilà.
Donc,
et la question, c'est que des fois, ça saute à un moment dans cette démarche. Ouais. C'était le cas par exemple, à Tarare.
Et donc, quand vous allez chez les gens, je sais pas, moi je me dis, on est dans une l'idéal, dans l'envie de changer un peu les choses, qu'elles tournent plus dans un sens plus équitable, plus collaboratif. Donc en fait, en allant frapper chez les gens, vous êtes en train de transformer nos vieux VRP, nos vendeurs représentants placiers, par des nouveaux... vous avez vocation à réaliser les projets, quoi. Nouveaux VRP.
Ah, bel acronyme, bel acronyme. c'est le problème. C'est-à-dire que nous, on a souvent envie de dire aux collectivités ou aux gens pour qui on travaille, est-ce qu'à un moment, la marge de manœuvre, elle est sur faire le projet ou pas aussi? Le problème, c'est comme on est souvent dans une logique de projet, comme je disais, ben, si on intervient, c'est qu'il y a un projet, donc c'est que quelque chose va se faire. Mais nous, on aimerait bien.
Ouais.
C'est-à-dire travailler avec les gens, de manière générale, et voir si à un moment, il y a des choses à faire, s'il n'y a rien à faire. Et peut-être qu'il y a des choses à faire, mais ailleurs. Mais là, c'est encore une fois une étape largement supplémentaire. Et on essaye de pas être dans cette logique de vendre le projet, parce qu'on est toujours quand même dans cette logique, hein, je rappelle.
Vendre, vous avez rien à vendre.
C'est ça. On a rien à vendre, mais on est toujours dans cette logique de que les gens s'approprient la ville aussi. Et donc, à un moment, on aide les gens à aussi avoir un regard critique, pas au sens
positif,
montrer du doigt, mais positif. Ça peut être très positif. Mais en tout cas, qu'ils aient un regard critique sur ce qui se passe, le projet, etc. Et voilà. Et après, les gens, s'ils ont envie qu'il se passe rien, s'ils ont envie que ça se passe différemment, etc., ils ont aussi d'autres moyens d'action. Et parfois, ils s'en privent pas.
Et en ville, par exemple, je sais pas, vous avez participé à des réflexions de jardins urbains, de choses comme ça, parce que tous ces gens-là, il y a de l'argent. J'entends parler d'argent depuis tout à l'heure. Faut bien qu'ils mangent, les pauvres.
Ouais. Alors, sur la question de la nourriture en ville, de l'agriculture urbaine, etc., c'est des sujets qui nous passionnent. On s'intéresse beaucoup à ces sujets-là.
Les petites abeilles, tout ça.
Mais on n'a pas beaucoup travaillé dessus. Jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup.
Les ruches en ville, par exemple.
Il y a d'autres associations.
Voilà, il y a d'autres associations qui le font.
Merci de nous avoir reçus. Beaucoup.
Merci à vous.
Et tout le programme est en ligne. Robindesvilles.org avec des S partout. C'est parce qu'on est plein de Robins. C'est super chouette. Et d'ailleurs, vous êtes libre de venir adhérer. On rappelle que c'est une association.
Ah oui, il paraît que vous formez en plus.
Et ouais, complètement.
Pensez global. On cherche toujours des bénévoles. Waouh.
Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local.